À qui profite le crime ?
La féminisation de la société s'est donc engagée dans deux voies simultanément. La première a consisté à permettre aux femmes de trouver une égalité de droits et de traitement, notamment dans la vie professionnelle. Elle a favorisé la correction d'une injustice qui n'avait que trop duré. Même si tout n'est pas parfait, loin de là, les femmes rencontrent aujourd'hui moins d'obstacles à leur progression sociale et occupent de plus en plus des postes de responsabilité. Ainsi, dernièrement, le secrétaire de la CGT, Philippe Martinez, a été remplacé par une femme, Sophie Binet. Le secrétaire de la CFDT, Laurent Berger, a lui aussi été remplacé par une femme, Marie-Lise Léon. Le président de la République s'est efforcé de préserver une parité entre les femmes et les hommes au sein du gouvernement. Et il a nommé une femme, Elisabeth Borne, au poste de première ministre. Ce sont là des évolutions positives, mais ce mouvement de la société s'est engagé, comme on l'a vu, dans une autre voie, celle de la féminisation des hommes. Or, la première évolution n'était pas censée conduire inéluctablement à la seconde. Pour donner plus de place aux femmes dans la société, il n'était pas nécessaire que les hommes eux-mêmes se féminisent. Alors que s'est-il passé ? En fait, les marchands, qui gouvernent le monde, se sont dit que cette féminisation des hommes serait une très bonne chose pour le commerce, en créant de nouveaux besoins, et donc de nouveaux marchés. Et cela relancerait une consommation un peu stagnante. Ils se sont donc employés à la favoriser. On sait en effet que les femmes consomment plus que les hommes. Deux raisons à cela. Elles sont souvent chargées de faire les courses pour toute la famille. Et, deuxième raison, elles adorent ça. Les soldes déclenchent chez elles une frénésie parfois incontrôlable. De fait, la plupart des spots publicitaires s'adressent aujourd'hui aux femmes. Ces dernières années, cette évolution est devenue caricaturale. Dans les publicités, la femme est toujours présentée comme très intelligente, et l'homme comme un benêt indécrottable. On cajole la femme, on la caresse dans le sens du poil. L'homme en prend un coup, mais les publicitaires s'en moquent, ce n'est pas lui qui fait les courses. Tout cela n'est quand même pas très bon pour le moral des hommes. Les féministes les présentaient déjà comme des brutes à la masculinité toxique, elles les font maintenant passer pour des débiles profonds. Mais l'audimat impose sa dure loi. Autrefois, les audiences mesuraient l'impact des programmes sur l'ensemble de la population, et aussi sur ce que l'on appelait la ménagère de moins de 50 ans. Cette notion de ménagère était devenue un peu vieillotte, on parle désormais de femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les FRA 50A. C'est quand même plus stylé. On a donc le matin les audiences des programmes de la veille, avec pour chaque émission la part de marché pour les plus de 4 ans et la part de marché pour les FRA 50A, cible privilégiée des annonceurs. Du coup, les programmes eux-mêmes ont évolué dans la même direction. Aujourd'hui, dans les séries télévisées, la plupart des inspecteurs de police sont des inspectrices. Naturellement hyper douées, hyper compétentes, avec sous leurs ordres des adjoints assez balourds qu'elles traitent comme des chiens. Amusez-vous à inverser les répliques. Faites dire à un homme ce qu'une inspectrice dit à son adjoint dans une série. Vous verrez, c'est insupportable. Il s'agit de provoquer une identification positive. En regardant ces programmes, la femme doit se sentir valorisée. Ainsi, quand arrive la publicité et qu'elle voit une femme faire des choix de consommation, elle est tentée de l'imiter. Toutes les héroïnes des séries et des téléfilms sont désormais des femmes. Comment réagissent les hommes ? Les plus jeunes ont fui la télévision depuis longtemps pour se réfugier ailleurs. L'idée de voir leur mère tous les soirs à la télé, en héroïne du quotidien, leur hérisse le duvet. Quant aux maris, ils prennent leur mal en patience, en attendant le jour béni où la télé diffusera un match de football. 22 hommes d'un coup, ça compense un peu la féminisation des programmes le reste du temps. Les professionnels de la télévision savent que s'ils mettent des hommes comme héros d'une série ou d'un téléfilm, l'audience va chuter. Le mouvement semble inexorable. Mais l'audimat est une belle excuse. En fait, il faut féminiser à outrance les programmes. Regardez aussi les reportages. On donne plus souvent la parole aux femmes qu'aux hommes. Mais bizarrement, dans les documentaires, le rapport des sexes s'inverse. Et ce sont les hommes qui dominent. La télévision donne donc plus de place aux femmes qu'elles n'en ont réellement dans la société. Est-ce justement pour faire avancer la société ou pour satisfaire les objectifs des annonceurs ? Les publicitaires sont toujours à l'affût des évolutions de la société. Ainsi, quand ils ont vu que les hommes se mettaient à prendre soin d'eux, à faire eux aussi du shopping, à suivre les modes au quart de tour, à s'acheter des crèmes, des sacs à main, ils se sont dit qu'il y avait là un filon. La féminisation des hommes allait doper les ventes. Ainsi naquirent les premières gammes de soins du visage pour les hommes, Formen, et la mode unisexe. Au fond, les hommes étaient des femmes comme les autres, et il fallait réveiller cette part féminine qui sommeillait en eux et qui pouvait rapporter gros. Pas la peine de se torturer la tête, la féminisation de la société est favorisée par les marchands pour augmenter la consommation. Peu importe que cela accélère le réchauffement climatique, business is business. En fait, derrière cette apparente guerre des sexes, se cache une guerre commerciale terrible pour pousser les hommes à adopter les mêmes modes de consommation que les femmes. La féminisation de la société a aussi un autre objectif, rendre les comportements des hommes moins rationnels et davantage guidés par l'émotion. Traditionnellement, on considère que les hommes analysent plus froidement les situations que les femmes. Les hommes seraient plus cerveau gauche, dominante rationnelle, et les femmes plus cerveau droit, dominante émotionnelle. Ces dernières sont plus sensibles et plus sujettes à laisser parler leurs émotions. Or, une part importante de l'acte de consommer est irrationnelle. La publicité joue plus sur l'émotion que sur la raison. Si l'on réfléchit un peu, on consomme moins, ou autrement. En développant la part émotionnelle de l'homme, on favorise le commerce. Comment s'y prend-on? Par exemple, en transformant les événements sportifs en grandes messes émotionnelles. Rappelez-vous le public des matchs de tennis d'autrefois. Il suivait stoïquement le mouvement de la balle d'un côté à l'autre du court, et comparé avec le public surchauffé d'aujourd'hui. On multiplie aussi les émissions de télé-réalité, où, côté femme comme côté homme, on laisse aller ses émotions en permanence. Pas une once de réflexion, que du ressenti brut. Les participants sont d'ailleurs choisis parmi des personnalités dites « borderline », c'est-à-dire des personnes qui se laissent souvent envahir par leurs émotions de manière incontrôlée. Regardez comment un homme dans une série d'aujourd'hui réagit quand on lui annonce la mort d'un proche. Il se met à pleurer et à gémir comme une fillette. Regardez comment un homme réagissait face à la même situation dans une série d'autrefois. Il encaissait sans broncher. Dans les fictions modernes, il n'y a aucune différence entre la réaction d'une femme et celle d'un homme. L'homme d'aujourd'hui se doit d'exprimer des émotions. On apprécie même que le scénario mette en valeur ses faiblesses, ses failles, ses fêlures. Sinon, il passe pour un être froid, insensible. On est loin des personnages taillés dans le roc des fictions d'hier, dont on voulait au contraire montrer la force de caractère, le courage, la solidité. Autre temps, autre mœurs. Quand on regarde la télévision aujourd'hui, on comprend que l'important n'est pas de faire marcher ces petites cellules grises, selon la formule du détective Hercule Poirot, mais de susciter des émotions. Tous les programmes mettent en avant l'émotion, même si elle n'en est pas le ressort essentiel. Ainsi, la victoire d'un sportif ou d'un participant à un jeu télévisé ne déclenche pas, comme on s'y attendrait, de l'admiration ou du respect, mais des irruptions de larmes et de cris de joie. Chaque entrée d'un artiste sur scène est accompagnée de hurlements, d'applaudissements déchaînés. C'est si émouvant. Ainsi, drogués à l'émotion jusqu'à l'overdose, les hommes, plutôt calmes avant, se mettent à pleurer, de rire, de joie ou de douleur, peu importe. À pleurer et à rire, et aussi à exulter, à sauter sur leur fauteuil, à s'embrasser à tour de bras. Tout cela est bon pour le business, se disent les marchands. Les hommes vont moins réfléchir avant d'acheter. Désormais, les hommes sont priés d'acheter une voiture non pas pour ses qualités mécaniques, sa ligne, son confort ou sa consommation, mais pour les émotions qu'elle va leur procurer. Étonnant. Et tant pis pour l'épuisement des ressources et l'extinction des espèces. Malheureusement, cette féminisation des hommes pour stimuler les ventes de choses inutiles a des conséquences très graves.